Pour ce matin, on revient à notre étude, c'est la deuxième partie sur Amos. J'étais là, en Rwanda, j'étais réveillé assez tôt, j'étais en train de penser, qu'est-ce qu'il faut faire quand je reviens à Genève? Et je savais que j'avais la classe pour Amos. Et j'ai pensé, quel est le message principal de cette prophétie d'Amos? Et j'ai commencé à penser, c'est un nom assez court, est-ce possible de donner un acronyme où on donne avec chaque lettre un mot qui exprime un peu la signification du mot. Et j'ai pensé, avant de me lever ce matin-là, à ces quatre mots. Et j'ai de mettre cela dans une expression que je trouve est vraiment le message de cette prophétie d'Amos. Donc, autorité. Et c'est là où on commence. C'est Dieu qui parle. Et quand il parle avec autorité. Autorité magistrale. Qui est bien sûr en rapport avec qui est Dieu. Toutes ses qualités et ses caractéristiques. Mais opérante. C'est cette autorité opérante. C'est pas dans un vide de l'univers. Il est le maître de l'univers, mais le maître de l'univers agit. Et dans ce cas, nous avons une petite perspective de comment il agit vis-à-vis d'Amos, mais souverainement. C'est-à-dire, il est tout à fait le chef, le boss. Vous avez vu un peu le match avec Federer? Donc, dans ce match, parfois, le commentaire est et il a fait un bon coup. Il est vraiment le boss sur le terrain. Et avec cela, nous pensons vraiment au niveau humain. Mais Dieu est le boss. Il est le maître de l'univers. Je crois dans quelques traductions, vous avez le Dieu des armées. Dieu des armées, dans quelques anciennes versions. Mais ce que j'utilise, c'est le second 21. Il dit le maître de l'univers. Plusieurs fois dans le livre, dans la prophétie. Donc, je pense, il est souverainement l'autorité magistrale qui est en train d'opérer dans notre monde, comme dans le monde d'Amos. On a vu un peu d'introduction de cela il y a 3-4 semaines, et c'est pas nécessaire de refaire tout cela. Aujourd'hui, c'est plutôt simplement de regarder un peu ce qui sont les 5 visions d'Amos. Il donne cela à partir de chapitre 7, donc 7, 8 et 9. On a ces visions. Mais c'est possible qu'il a eu ces visions quand il était appelé. Et après, il est venu pour dire ce qu'il a dit de chapitre 1 à 6. Et c'est un rapport de ces visions dans chapitre 7 à 9. C'est pas très important quand, mais quand même le fait que lui, il était influencé par sa manière d'être le porte-parole. Mais, en même temps, on peut dire que Amos était la voix de Dieu dans sa colère. Parce que je crois, quand on lit Amos, on a le sentiment. Bien sûr, ça vient de Dieu et le porte-parole, mais je crois que Amos a ressenti la même chose. Ce peuple qui se présentait comme très orgueilleux était vraiment un peuple pourri. Et par la révélation de Dieu, Amos le savait, mais on ressent la colère d'Amos et bien sûr la colère de Dieu. On voit cela dans ces visions. Alors, j'aimerais d'abord simplement regarder les visions avec vous, assez rapidement. Et après, il y a un autre aspect de cela que j'aimerais regarder dans le texte. Donc, éventuellement, il faut votre Bible. Mais au début, j'ai mis tous les textes qui sont là, sur la feuille, et on peut lire cela. La première vision, c'est la vision des sauterelles. Donc, voilà la vision de ces 5 visions, et on commence par la sauterelle, qui était vraiment plein à l'époque dans ce pays de l'Est. Parce que s'il y avait ces grandes nuées de sauterelles qui viennent, ils pourraient détruire toute l'économie. Tous les champs sont envahis. Donc ça, c'est la première chose. Je vais le lire. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître. Ça, c'est le récolte en train de se faire. C'était le regain après la coupe du roi. Donc, bénédiction du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe et la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Ça, c'est Amos. Il ne voulait pas que le peuple soit dévasté par cette invasion des sauterelles. Parce qu'il savait que c'était vraiment la fin de ce peuple. Donc, comment Jacob, donc Israël, subsistera-t-il car il est si faible? Si faible, à ce point-là, il ne faut pas oublier, nous sommes pendant le règne de Jéroboam II. Et c'était le moment le plus prospère d'Israël du Nord. Il était assez fort avec tous ces pays autour qui étaient plus ou moins sous leur autorité. Mais malgré cela, vis-à-vis de Dieu, il était faible. Et Amos savait cela. Donc, cette phrase, l'Éternel se repentit de cela. Il a dit, non, je ne vais pas. Et Amos, je t'écoute. Je suis touché par ta prière. Donc, je me répands. Dieu se répand de ce qu'il voulait faire. Donc, il dit, cela n'arrivait pas, dit l'Éternel. Deuxième vision. Le feu. Donc, les sauterelles ne viennent pas. Mais le feu. Je crois que ça veut dire manque d'eau, chaleur, le soleil qui brûle le pays. Le feu, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé cette vision. Voici le Seigneur, l'Éternel, proclamer le châtiment par le feu. Maintenant, n'oublions pas, nous sommes à un point où il a déjà dit, il y aura ces châtiments sur les pays autour de vous. Et enfin, il revient et à vous aussi, Israël. Bien sûr, d'autres vont être punis. Maintenant, je te parle. Et à eux, il dit, je vais dévorer les champs. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Et de nouveau, l'Éternel se repentit de cela. Donc, il n'y aura pas cette sorte de famine brûlante par le soleil et le manque d'eau. Cela non plus n'arrivera pas. Dit le Seigneur éternel. Ça va bien pour le moment. Il y a ces visions de destruction. Et par l'intervention d'Amos, non, il n'y aura pas. Dieu dit, touché par la prière d'une seule personne. Ça, c'est un grand message. Mais le troisième, il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. Maintenant, le niveau que vous voyez là, c'est pas cela. Ça, c'est moderne. Mais à l'époque, leur manière de construire un mur qui était droit, quelqu'un en haut tire une corde avec un poids et il laisse tomber la corde et le mur devrait être réglé avec ce qui est juste dans la mesure, c'est-à-dire pour la hauteur. Donc, dans ce cas, nous avons un niveau, mais l'idée de le niveau juge. Il juge la construction. Il dit ce qui est faux et ce qui est correct. Donc, Dieu est là en train de mesurer, juger le peuple. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos? » Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je vais mesurer le peuple. Nous n'avons pas vraiment ce langage. Mais qu'est-ce que vous pensez? On se lève le matin, on commence la journée, et tout au long, Dieu est là avec un niveau à côté de nous. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes droits? Mais dans un sens, c'est comme cela. Nous sommes toujours en train d'être mesurés par Dieu, pas comme un grand policier, mais avec l'idée que pour notre bien, une certaine direction, une certaine manière, un certain style de vie est mieux pour nous. Et Dieu veut que ça soit corrigé quand c'est faux. Donc nous sommes constamment en train d'être mesurés au niveau par Dieu, que nous restons droit avec lui. Seigneur, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, je ne lui pardonnerai plus. Plus. Avant, il a dit oui, mais plus. Et cette fois-ci, troisième vision, malgré l'intervention d'Amos, Dieu a dit non, c'est trop tard. Et il y a une autre leçon là. On le voit de temps en temps dans ce livre. Dieu est miséricordieux. Dieu est patient. Mais il y a un moment quand le comble de sa patience arrive. Il n'est plus patient. Et nous avons dans ce cas, il dit, les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Bien sûr, c'est parce que le peuple a quitté la voie de l'Éternel pour suivre des idoles, les hauts lieux. Et en plus de cela, ils ont déformé ce qui est le culte. Avant, c'était centré avec le temple à Jérusalem, mais quand Jéroboam I a divisé le pays, et pour faire Israël du Nord, il a reconstruit le culte. Parce que il ne fallait plus que le peuple rentre à Jérusalem. Ça, c'est dans le territoire de l'ennemi maintenant. Donc, ils ont construit des hôtels à Bethel et à Dan, et il faudrait faire les pèlerinages jusqu'à Beersheba, dans le sud. C'est mentionné dans le livre. Mais c'est-à-dire, c'est pas le culte comme Dieu le voulait. Ils ont changé cela. Et maintenant, voyons que c'est fini. Je ne peux pas continuer avec cela. Vos sacrifices, vos instruments de musique, ça ne tient plus. Et le quatrième, on voit pourquoi. Panier de fruits. Dans ce panier de fruits, c'est pas si mauvais, hein. C'est bien. J'aime bien l'idée, parce qu'il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé à cette vision. Voici, c'était un corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Alors, pourquoi il y a un problème avec un panier de fruits? Parce qu'il semble que c'était du fruit mûr. C'était mûr, leur histoire. Mais qu'est-ce qu'il y a qui suit ce qui est mûr? Le fruit mûr devient pourri par la suite. Préparation, un peu vert, un peu parfois amer, parce qu'il n'y a pas assez de sucre, mais enfin, c'est mûr! Il faut le manger bien à ce moment-là, parce qu'après, c'est pourri. Donc, on voit dans ce cas que c'est une manière de dire, c'est fini. Nous sommes arrivés à la fin. Et il dit, et ces jours-là, les chants du palais seront des gémissements. Dit le Seigneur l'Éternel, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. Dur le langage. Mais c'est la fin avec une destruction totale. Et avec cela, nous voyons que c'est pas que Dieu n'est pas miséricordieux. On a déjà vu cela dans les deux premières visions. Mais que sa patience prend fin à un moment donné. Et le cinquième, le Seigneur est l'autel. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Maintenant, je sais pas, on a un autel ici. À l'époque, je sais pas comment c'était, parce qu'il semble que c'était une construction assez importante. Bien sûr, à un moment donné, ils ont donné des sacrifices par milliers. Donc, il fallait quelque chose de vraiment important. Parce qu'il dit, et brise-les sur leur tête. Il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'embranlent. Donc, il y a une construction importante. Mais Dieu se tenait debout. Et maintenant, il fait tout cela dans lequel vous avez tant d'orgueil. Ça va être détruit. Par ma présence, Dieu dit. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Quand la destruction vient, on essaie d'échapper. Mais c'est pas possible. Aucun d'eux n'échappera. Je pense à ces scènes de jugement final, parce que c'est un sens, c'est une préfiguration du jugement final. Mais ça, c'est nous, hein? Alors, le moment va venir quand nous serons tous appelés devant le tribunal, on peut dire l'autel, le tribunal de Dieu. Et comme je dis assez souvent, il n'y aura aucun athée présent. Tout le monde qui vient devant le tribunal de Dieu seront des croyants. Et nous savons la suite de cette scène dans surtout Matthieu 25, avec la division de tri entre ceux qui sont à jamais avec Dieu et d'autres qui sont séparés de lui. Mais dans ce cas de Amos, quand il y a l'invasion des Assyriens, ils vont détruire tout quand il arrive. Et voici ce qu'il dit. Car voici je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Comme on secoue avec le crible, ça c'est quand il y a le blé, séparer le blé et le paille, sans qu'il tombe à terre un seul grain, personne qui échappe. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous attendra pas. Tout le monde sera impliqué dans le jugement de Dieu. Voilà les visions. Et vous voyez comme c'est dur, hein? Et avec cela, on voit celui qui est en train d'opérer souverainement, parce qu'il est Dieu. Et quand je suis revenu avec le message d'Amos, bien sûr, il y a de l'histoire, de l'arrière-fond, le moment dans l'histoire d'Israël. Mais quel est le message d'Amos? Et le plus que je regarde dans cette lettre, j'ai lu cela plusieurs fois, et ce que je trouve, c'est que nous sommes en train d'apprendre quelque chose de Dieu. Amos est une sorte de mémoire ou thèse sur la personne et le caractère de Dieu. Et on apprend toutes ces choses historiques concernant la chute du Nord et tout cela. Mais quand même, derrière, il y a toute cette idée, qui est Dieu? Et comment est-ce qu'il agit? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour souligner cela, j'ai mis sur la feuille des passages bibliques. Et assez rapidement, nous avons le temps de vite voir dans l'Amos ce qui est dit de Dieu. C'est le verset 5. Parce qu'il y a deux choses concernant Dieu. On peut voir dans le livre sa patience, mais aussi sa puissance. Et voilà quelques verbes. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bicathavin les habitants, etc. Il va le faire. Il est le Dieu tout-puissant, l'éternel. Et il a la puissance de le faire. Toujours chapitre 1. J'ai sauté au début, il y a cette phrase. Tout cela s'est passé 2 ans avant le tremblement de terre. 2 ans avant le tremblement, quel tremblement de terre? Il ne dit pas, mais quand même, il y a cette idée Dieu sait qu'il y aura quelque chose qui va arriver, qui sera marqué dans l'histoire d'Israël. Parce que plusieurs fois, ce tremblement de terre a été noté dans les écrits historiques. Dieu sait 2 ans avant quand il y aura un tremblement de terre. Toujours chapitre 1, verset 7. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et on dévorera les palais. J'exterminerai d'Ashdod, les Philistins. Toujours ces verbes qui indiquent la puissance de Dieu pour juger. Verset 10. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Chapitre 2. Verset 10. Il parle d'histoire des autres nations. Il dit, pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, on revient sur cette histoire si importante pour les Israélites, leur départ d'Égypte. Et Dieu, comme nous le savons, était le boss de cette histoire. Chapitre 3, fin de verset 6. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça, c'est global, hein? Maintenant, il y a une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le malheur, etc. Comme Dieu qui est l'auteur de cela, mais il le sait. Et comment ça peut arriver sans qu'il soit impliqué? C'est l'idée. Toujours chapitre 3. Chapitre 3, verset 15. Je démolerai les nations des maisons d'hiver, les maisons d'été. Les palais d'ivoire seront détruits. Donc la prospérité, les biens matériels, c'est lui qui est en contrôle de cela. On peut l'avoir, mais ça peut être quelque chose qui disparaît. Chapitre 4, verset 6. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Et voilà le refrain qui revient. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 7. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il avait encore 3 mois. Et il dit, à la fin de verset 8, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Fin verset 10. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorre. Et à la fin, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Donc, conclusion, verset 12, à la fin, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. La dernière fois, j'ai parlé de cela à un moment comme un point vraiment central à tout cela. Si on connaît la miséricorde de Dieu, si on voit que sa patience est à comble, quelle est la conséquence? Prépare-toi de rencontrer ton Dieu. C'est pourquoi c'est important de savoir qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il fait, parce qu'on va le rencontrer un jour. Aujourd'hui? Peut-être. Verset 13, toujours chapitre 4. Il dit, en effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'est un passage comme cela, c'est pourquoi je pense que ce qui est essentiel dans cette prophétie d'Amos, c'est ce que nous apprenons de Dieu, qui il est, comment il agit, et comment nous devrons être amenés d'être à genoux devant lui, le maître de l'univers. Chapitre 5, c'est le verset 8. Ce qu'il a fait, il a créé les Pléiades et l'Orion, les étoiles. Il change les ténèbres en aurore, passage de nuit à jour. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. Petit point de science. Comment les pluies sont venues? Il vient de la mer. Verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers. Maintenant, on remarque combien de fois cette expression revient. Le Dieu de l'univers. Il dit, recherchez le bien. Et il dit, vous viviez. Et ainsi l'Éternel dit. Verset 15. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. Est-ce que nous sommes tolérants aujourd'hui du mal? Est-ce que nous détestons le mal? Combien de fois est-ce que vous pensez dans Amos, il y a 9 chapitres, que nous avons le mot amour? J'ai posé cette question ce matin à moi-même, et je suis allé dans une concordance, et j'ai trouvé une seule fois. Amour, une seule fois dans la prophétie d'Amos, et c'est ici. Et aimer le bien. Ça, c'est une règle assez simple, n'est-ce pas? Détester le mal, aimer le bien. Et on marche bien avec Dieu. Maintenant, il faut définir ce qui est mal et ce qui est bien. Oui. Mais quand même, une fois qu'on a ce discernement, avec la conscience et la parole, on peut être droit avec Dieu. On peut marcher dans la vérité. Chapitre 5, verset 27. Vous excellerez au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers, l'exil. Chapitre 6, verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, parce qu'il parle plus haut que lui-même, pour jurer. C'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. Vous voyez comment ce refrain revient? Pourquoi? C'est cela le message. Dieu est le maître de l'univers, y compris de nos vies personnelles. Verset 14. Il dit, « Je ferai surgir contre vous et continue d'éclairer l'Éternel, le Dieu de l'univers. » Et il y aura une conséquence de cela. Chapitre 7, verset 3. « L'Éternel l'a regretté. Cela n'arriverait pas à dire l'Éternel. » On a vu cela dans les visions que Dieu peut changer son avis grâce à nos prières. Ça, c'est une leçon importante dans ces visions. Et ça continue un peu comme on veut dans les deux premières visions, mais on termine avec le chapitre 9, 5. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous voyez le refrain qui continue. Verset 6 à la fin. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Verset 7. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir des Philistins de Captor et les Syriens de Kir? Vous savez, il y avait d'autres nations où Dieu était actif. D'autres nations qu'il a amenées d'un endroit à un autre. Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des nations. Mais maintenant, nous visons Israël parce que c'est l'approche de Jésus qui est en train de se faire. Mais Dieu est le Dieu des nations, ou on peut dire du monde. Il y a d'autres. On a beaucoup de verbes d'espérance maintenant à la fin, à partir de verset 11, 9, 11. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je reparerai ses brèches. Je redresserai ses ruines. Et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Donc, c'est Dieu miséricordieux, fin de sa patience, destruction, exil, mais toujours avec l'espérance. Il y aura un reste qui va revenir. Et nous voyons cela, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Il y a un reste qui seront toujours fidèles jusqu'à la fin. Alors, le livre termine toujours sur le même thème. Et j'ai pensé, voilà, je vais lire, et quel est le dernier mot de ce livre? Dit l'Éternel, ton Dieu. Il termine avec cette phrase-là. Dit l'Éternel, ton Dieu. Dans Amos, nous avons cinq choses que nous pouvons apprendre de Dieu. D'abord, Dieu agit. Il n'est pas loin là-bas, dans le vide de l'univers. Il vient ici, pour faire les choses ici, avec nous. Deuxièmement, Dieu parle. Il parle à travers des événements, c'est clair, mais il parle à travers ses porte-paroles, ses serviteurs, les prophètes, que nous sommes en train d'étudier. Troisièmement, Dieu donne les commandements. Il attend la repentance et un changement de vie chez nous. Parce qu'avec cela, il y a des promesses. Donc on a Dieu qui agit, on a Dieu qui parle, Dieu qui commande et Dieu qui donne les promesses. On a vu avec ses verbes, il va reconstruire, il va refaire. Ou on peut dire, il y aura la résurrection. Et nous serons de nouveau dans sa présence, en passant par le jugement. Mais finalement, et on peut dire, c'est presque une note en bas de cette livre de Amos. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne des avertissements. Dieu donne des avertissements. La prophète d'Amos est un avertissement pour nous rappeler que Dieu est le Dieu de l'univers.